Au Mali, Barkhane prétend avoir encore fait une prise en neutralisant un gradé terroriste. Les médias mainstream couvrent beaucoup l'info. Visiblement, les militaires français auraient annoncé avoir éliminé fin février, donc au Mali, un haut responsable algérien du groupe extrémiste d'Acmi. Ce qui est principalement précisé, c'est que dans cette annonce, donc, intervient alors que l'armée mène en parallèle le retrait de ses troupes du pays et que le président français Emmanuel Macron a annoncé sa candidature évidemment à la présidentielle. L'armée d'occupation française aurait tué donc fin février dans le nord du Mali un haut gradé donc algérien du groupe Al-Qaïda dont il était, selon l'état-major français, le coordinateur financier et logistique. Selon la description de l'opération, donnée évidemment encore une fois par l'état-major de l'armée française, après avoir été localisée, identifiée dans une zone connue pour être un refuge des groupes appartenant à des groupes armés terroristes affiliés à Al-Qaïda, il a été neutralisé par une intervention au sol, appuyée par un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque Tigre et deux drones français, comme le détaille l'état-major. Mais actuellement, voilà où la France veut en venir. Sa neutralisation est un nouveau succès tactique significatif, affirme l'état-major donc des troupes d'occupation françaises, pour la force Barkhane qui reste déterminée à poursuivre le combat contre les groupes armés terroristes avec ses alliés sahéliens européens et surtout nord-américains. Malgré le retrait en cours des 2 400 militaires français stationnés au Mali sur un total de 4 600 hommes au Sahel, comme le commente l'état-major. Cette élimination d'un acteur historique de l'expansion d'Al-Qaïda et du terrorisme en Afrique de l'Ouest permet en outre d'affaiblir une nouvelle fois la gouvernance caïdiste et prive certains groupes armés terroristes d'un relais majeur au nord du Mali, dans la zone de Tombouctou en particulier, comme le souligne encore l'armée française. Un nouveau false flag pour se redorer le blason aux yeux des Français à l'approche des élections présidentielles? Est-ce vraiment un haut gradé d'Al-Qaïda? Que ferait un coordinateur financier logistique sur le terrain? Et surtout que pour la première fois, c'est un Algérien qui sort du lot. On a l'impression que cet homme ne faisait pas vraiment partie d'un groupe terroriste, mais plutôt que c'était quelqu'un qui était du côté de l'armée malienne et qui justement fournissait des renseignements au FAMA. Selon un exemple cité par un expert, il est clair que si la France et ses alliés sont capables de voir des mouvements de militaires russes au Mali, il est difficile de croire qu'ils ne sont pas capables de repérer des groupes armés terroristes. La version, en plus de l'état-major de l'armée française, n'est absolument pas à prendre au sérieux. Oui, cela pourrait faire une publicité pour Macron dans sa campagne présidentielle en disant que l'État malien aurait fait une erreur et que le bilan de la présence française n'est pas si négatif que le prétendent donc les Africains. Dernièrement, certains médias africains ont fait part donc du fait que les hauts gradés terroristes auraient fui le Mali face à l'avancée spectaculaire des forces armées maliennes. Et ça, par contre, c'est bel et bien une réalité et cela prouve que la présence des FAMA et leurs opérations de sécurisation fait peur aux groupes armés qui s'y sont installés au Mali. Plus de 500 000 déplacés maliens qui ont regagné leur village, ça c'est un résultat. Bref, des résultats qui n'ont jamais été vus avec 10 ans de présence de Barkhane. Et ça, c'est également une réalité. Au Mali, le ratissage des forces armées maliennes, par contre, continue. Voyons donc les médias mainstream inonder la toile lorsque l'armée française neutralise un supposé terroriste. Il sera important de rappeler que c'est une vraie guerre contre le terrorisme et que cela est un combat de tous les jours. Les forces armées maliennes continuent donc leur combat sur plusieurs fronts, contre les groupes armés terroristes, mais également contre les médias. Cette semaine, l'état-major général des armées maliennes a dénoncé une vidéo montée de toutes pièces qui a circulé sur les réseaux sociaux, faisant état d'une exécution sommaire collective des FAMA sur des populations civiles dans le secteur de Diabali. L'état-major annonce que ces allégations sont de nature à jeter le discrédit sur les FAMA respectueuses des droits de l'homme et du droit humanitaire. Les FAMA ne sont absolument pas responsables d'une telle abjection et ces informations constituent de la désinformation. L'état-major rappelle également que la mission première des FAMA est bien la protection des personnes et des biens et que cet acte ne constitue en aucune manière le mode opératoire de l'armée malienne. Une enquête est déjà ouverte pour trouver les responsables de ce crime et quoi qu'il en soit, les responsables ont pour seul but de changer l'opinion malienne par rapport aux forces armées maliennes. Ils ne l'ont peut-être pas encore bien compris, mais c'est déjà peine perdue, ce genre d'opération. Et sur le terrain, les forces armées maliennes continuent le combat contre le terrorisme. Hier, l'armée malienne a repoussé une attaque des groupes armés terroristes sur les troupes donc basées à Taaka, dans la région de Gao. La riposte aéroterrestre des FAMA a fait évoluer le bilan qui est monté à 9 morts côté terroriste. Dans un communiqué de l'état-major des armées, les FAMA continuent d'écraser la coalition de groupes armés terroristes dans la zone de Mondoro depuis le 4 mars. La mission de renseignement en profondeur ont permis donc de localiser les zones de repli de certains groupes terroristes. Donc, c'est des offensives aériennes à travers des frappes ciblées ont détruit des plots logistiques et des convois ennemis. Ces renseignements ont permis de confirmer donc les pertes importantes infligées aux terroristes. La situation dans la zone de Mondoro est donc sous le contrôle de l'armée malienne. Le plan Maliko et l'opération Keletegi continue donc. Ces bilans transmis chaque jour par l'état-major de l'armée malienne montrent effectivement que les FAMA sont réellement en train de se battre contre le terrorisme. Et en plus, l'armée malienne est en train de gagner. Contrairement à la présence massive de soldats français qui neutralisaient des dizaines de personnes prétendument des terroristes pour l'Elysée et soupçonnés par d'autres d'avoir été seulement des civils maliens gênants en 10 ans de présence. D'où la croyance donc des Maliens quand ils considèrent les armées occidentales comme des troupes d'occupation. L'Ukraine croit encore que l'Afrique est un grand réservoir de soldats prêts à combattre pour les causes ou intérêts de l'Occident. On commence à comprendre de mieux en mieux pourquoi certains États occidentaux cherchent absolument à mêler l'Afrique dans le conflit ukrainien. Tout d'abord, selon certaines informations, les Africains vivant en Ukraine étaient victimes de racisme lorsqu'ils tentaient de fuir les combats dans le pays. Même si certains officiels, comme le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, ont nié les faits. Mais le pire dans cette affaire, c'est également que les autorités ukrainiennes tentaient donc d'utiliser ces Africains dans sa guerre contre l'armée russe, car dans certaines parties de l'Ukraine où il y a des confrontations directes avec les militaires russes, l'armée ukrainienne utilise effectivement les civils comme boucliers humains. C'est d'ailleurs pour cela que les autorités russes ont mis en place des couloirs humanitaires pour évacuer les civils et que le gouvernement ukrainien n'accepte pas, évidemment. C'est donc grâce aux réseaux sociaux que l'affaire a pris beaucoup d'ampleur et que le monde entier a pu voir ce qui se passait réellement aux frontières pour les Africains. Sinon, personne n'aurait été au courant. Et donc, ces Africains auraient bel et bien été utilisés comme boucliers humains face à l'armée russe. Mais l'Ukraine cherche encore donc de la chair à canon, mais cette fois-ci directement en Afrique. En effet, Kiev a lancé une campagne sur le continent africain pour trouver des volontaires africains prêts à se battre contre l'armée russe en Ukraine. Et ce sont les ambassadeurs ukrainiens dans les pays africains qui doivent s'occuper de ça. C'est certainement une première mondiale. Les ambassadeurs donc ukrainiens en Afrique n'ont pas hésité à poster des messages sur les réseaux sociaux afin de recruter des hommes africains prêt à partir en guerre contre la Russie. C'est évidemment une faute diplomatique assez lourde qui contrevient aux accords de Vienne. Faut-il rappeler que dans n'importe quelle autre situation, ces troupes auraient été qualifiées de terroristes, ce qui fut le cas notamment en Syrie ou en Irak, etc. Alors que le conflit entre Ukrainiens et Russes entame sa deuxième semaine, donc ce vendredi, un étrange appel à rejoindre l'armée ukrainienne a été publié depuis le 3 mars par l'ambassade d'Ukraine, notamment à Alger sur son compte Facebook. Le message a été retiré après que le ministère algérien des Affaires étrangères a sommé l'ambassade ukrainienne de le supprimer. L'attitude de l'ambassade ukrainienne donc constitue un fait grave et viole les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques entre États, selon certaines sources. Ce message a été également relayé par l'ambassade ukrainienne au Sénégal. L'ambassadeur d'Ukraine, donc à Dakar, saisi à cet effet et a confirmé l'existence de l'appel. Suite à quoi le ministère sénégalais a protesté et condamné fermement cette pratique qui constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment en ce qui concerne l'obligation de respect donc, des lois et règlements de l'État accréditaire, lit-on donc dans un communiqué des affaires étrangères sénégalaises publié jeudi. Comme leurs homologues algériennes, les autorités sénégalaises ont invité donc l'ambassade ukrainienne à retirer immédiatement l'appel de cesser, donc sans délai, toute procédure d'enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise, comme l'a ajouté la diplomatie sénégalaise. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a rappelé que le recrutement de volontaires mercenaires ou combattants étrangers sur le territoire du pays est illégal et passible des peines prévues par la loi. Les États africains ont condamné cet acte immonde, mais évidemment, comme à leur habitude, la communauté occidentale, soi-disant défenseur des droits humains, est encore, soi-disant, très intraitable concernant le respect des lois internationales, ont préféré garder le silence sans aucunement condamner cet acte illégal et raciste envers les Africains. Dans l'histoire, les Africains sont déjà venus en aide donc à l'Occident dans ces guerres et évidemment tout le monde a vu ce que ça a donné. Cela montre encore une fois que le respect des droits n'est absolument pas l'objectif principal des Occidentaux. En d'autres termes, ils s'en foutent royalement, surtout si c'est l'un des leurs qui entrave ces lois. Mais la manœuvre sournoise est tout de même importante à signaler. Le silence des Occidentaux par rapport à la demande de l'Ukraine montre évidemment une certaine complicité. Évidemment, l'OTAN n'a pas envoyé ses hommes aux côtés de l'armée ukrainienne, donc ils veulent se rabattre sur les hommes africains. De plus, l'Ukraine tente également de jouer la carte de l'immigration. Genre, si les Africains viennent défendre l'Ukraine, ils pourront immigrer en Europe. Ce qui est évidemment faux. On a vu comment les Africains sont traités déjà à la frontière alors qu'ils tentaient de fuir la guerre. Et ces Africains serviront seulement de chair à canon et de bouclier humain face à l'armée russe et rien d'autre. Et il n'y aura pas d'immigration ni rien de tout cela à la clé. Ceci n'est de toute façon pas une guerre africaine. Le continent africain est déjà en train de faire face à l'insécurité, au terrorisme international et évidemment les Ukrainiens, ni aucun pays européen ou américain n'ont pris les armes pour venir en Afrique aider les peuples africains à faire face aux groupes terroristes. Bref, l'acte des ambassades ukrainiennes reste encore une fois perçu comme étant du racisme pur et dur envers les Africains. Et le silence de la communauté occidentale montre également une certaine complicité. Sans l'Afrique, il ne faut pas oublier qu'il n'y aurait même pas d'Europe. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce genre de racisme n'a vraiment pas sa place.
Dans un message de félicitations au Ghana à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance, le président iranien Ebrahim Raisi a souhaité l'élargissement des relations amicales entre Téhéran et Accra dans divers domaines. Dans un message dimanche, le président Ebrahim Raisi a félicité son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo à l'occasion de la fête de l'indépendance de ce pays africain. Dans sa lettre, le président Raisi a exprimé l'espoir que la détermination des responsables des deux pays, Téhéran et Accra, à renforcer et à élargir leurs relations amicales dans tous les domaines d'intérêt mutuel. Le jour de l'indépendance est un jour férié officiel célébré au Ghana. Le 6 mars, il marque la déclaration d'indépendance de la Grande-Bretagne en 1957. En février 2016, le président ghanéen de l'époque, John Dramani Mahama, s'est rendu à Téhéran. Il s'agissait de la première visite d'un président ghanéen en Iran en 37 ans. Signature d'un protocole d'accord gazier entre la Guinée équatoriale et le Nigeria. La Guinée équatoriale et le Nigeria viennent de signer un protocole d'accord qui prévoit l'acheminement de gaz nigérian vers le complexe gazier de Punta Europa sur l'île de Bioka dans le pays hispanophone. Le document a été paraphé à Abuja lors du deuxième sommet international de l'énergie et du Nigeria par les ministres de tutelle des deux pays, à savoir en fait de Timipre de Silva pour le Nigeria et Gabriel Obiang Lima pour la Guinée équatoriale. Le conflit Russie-Ukraine offre à la Mauritanie l'opportunité de profiter de la hausse des prix du minerai de fer. Selon l'ITIE, la valeur de la production mauritanienne de minerai de fer est passée de plus d'un milliard de dollars en 2016 à environ de 519 millions en 2017. Depuis, le pays qui compte parmi les plus importants producteurs en Afrique met toutes les chances de son côté pour remonter la pente. Tout comme l'or et l'aluminium, mais le prix du minerai de fer connaît une hausse portée par les crainte d'une prolongation de la guerre en Ukraine. Il s'agit là d'une aubaine pour la Mauritanie qui n'attendait qu'une telle opportunité pour booster la valeur de sa production. Le lancement de la phase 2 du train express régional prévu pour le 25 mars 2022 au Sénégal. Après le lancement de la phase 1 du train express régional, le Sénégal s'apprête à enchaîner avec la deuxième étape du projet. Et ceci pourrait étendre l'offre à d'autres villes non encore couvertes par ce nouveau service. Le président sénégalais Macky Sall procédera au lancement de travaux de la deuxième phase du train express régional selon un communiqué de l'APIX, agence de promotion de l'investissement et de grands travaux.